I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron. Positron, c'est l'émission où on vous recommande trois trucs cool en 20 minutes, où on vous donne des choses pour éviter que vous vous ennuyiez, surtout pendant cet été qui est chaud et moite. Vous allez pouvoir trouver des choses incroyables à voir, à lire, à écouter avec cette nouvelle session de Positron que je vais avoir pendant 4 épisodes. De nouveaux animateurs qui sont bon des petits jeunes hein, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui sont des gens en qui je crois. Je pense qu'ils ont un grand potentiel podcastique. Non, bien sûr, je plaisante. Ce sont des gens que vous connaissez très bien, d'autant plus qu'ils étaient mes premiers invités dans Positron. Donc, ils fêtent en fait le premier anniversaire de Positron. Je vous présente donc Jérôme Kaitborg.
Hein, t'as fait le tour de tes amis, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et
quand même,
ça a tenu un an, quoi.
Ouais, c'est
pas
ça.
C'est pas mal.
Jérôme Kaitborg et William Abyssrohr du très célèbre Will & Co. Ou pardon, ouais. Il faut dire WAC.
Non,
maintenant.
Mais c'est de ça va.
D'accord.
Comme tu le sens.
Ok, bah, on va dire William Abyssrohr alors. Comment allez-vous, messieurs?
Ça va bien. Beaucoup de fièvre, mais ça va. Je la crève, mais grave.
Mon pauvre. Tu disais 42 fièvres?
Ouais, j'exagère un peu, tu sais, ça c'est mon côté sicilien.
D'accord. Bon, si tu défailles pendant l'émission, on saura que c'était non, à cause de ça.
Si je raconte des grosses conneries, je pourrais dire que c'était la fièvre.
C'est la nouvelle technique.
Je peux la faire une ou deux fois par an, celle-là. Hein.
D'accord. Bon, vous allez bien depuis un an, parce que bon, on s'est pas trop vu, hein, pendant
mais
un
non.
an. Moi, je vous ai, oui. Vous allez bien? Il y a des choses incroyables qui se sont passées dans vos vies?
Vas-y, Jérôme, je t'en prie.
Bah oui, moi ça va. Ma petite chaîne YouTube commence à donner des choses intéressantes, donc je suis content.
Et Jérôme, en plus, t'as fait un voyage, Jérôme.
Et j'ai fait un voyage.
Ça
faisait 7 ans que j'étais pas parti. Depuis 2007, j'étais pas parti en voyage.
Alors tu sais que je t'ai suivi moi sur Facebook et ailleurs. Et alors je sais pas où d'ailleurs, mais en tout cas je t'ai suivi et je t'ai envié tout le long. Hein. Vraiment ça avait l'air magnifique.
Il était super. Bon après je prenais en photo les chouettes trucs, hein, pas les tas d'ordures au bord de la route, quand j'ai vomi ou quand j'ai une gastro ou voilà ça j'ai pas. Tu sais on sublime aussi.
Mais c'était bien sublimé.
Très bien.
Non il était vraiment exceptionnel.
Bon, ben, si vous voulez voir ça, si vous n'avez pas encore suivi l'histoire, Jérôme, où est-ce qu'on peut retrouver toutes tes photos?
Alors, mes photos, pour l'instant, non, elles seront pas publiques parce que c'est des photos personnelles. Mais j'ai mis un échantillon sur Instagram.
Oui,
d'accord.
Mon Instagram, Jérôme Kaitborg, et puis j'ai fait deux petits, on va dire, conseils photos, et j'en ai profité pour montrer quelques photos sur ma chaîne Naotech TV. Ça s'appelle, je crois, conseils pour prendre des bonnes photos en vacances ou un truc comme ça.
Ah, c'est très descriptif, c'est bien. Bon, écoutez, j'espère que vous êtes donc tous en forme, que votre été se passe bien, on est à peu près au milieu là, et donc on va se lancer immédiatement dans nos recommandations positroniques, et je vais, pour changer, hein, donner la première. Et je vais donc commencer avec un roman historique. On revient un petit peu dans la littérature française de qualité, et je vais donc donner en recommandation un roman qui est très connu et que je n'ai découvert que sur le tard. Quand j'étais petit, je lisais pas beaucoup. Et en fait, je l'ai découvert autour de je devais avoir une vingtaine d'années. Et ça a été, là encore, souvent quand je découvre des romans français de qualité, ça a été une sorte de révélation. Et donc, c'est le roman, c'est Les Rois Maudits, qui est un roman hyper hyper célèbre. Et d'ailleurs, j'imagine et j'espère que vous en avez déjà entendu parler, chers auditeurs. C'est un roman hyper connu de Maurice Druon, qui est un petit peu vieux. qui a été écrit, alors je sors Wikipédia, hein, qui a été écrit entre 1955 et 1977. Donc j'ose à peine imaginer l'angoisse et l'attente que ça suscitait si on essayait de le suivre au volume par volume. Il y a 7 petits volumes assez faciles à lire. Et en fait, ça suit l'histoire de ce qu'on appelle les rois maudits en histoire, qui est en fait la malédiction entre guillemets qui a été prononcée par Jacques de Morlaix, qui est le grand maître du temple de l'époque des Templiers, à l'encontre de Philippe le Bel, Philippe IV, au moment où il s'est fait brûler sur le bûcher où il a été condamné, et c'est Philippe le Bel qui en fait l'avait fait condamner pour récupérer les sous des Templiers qui avaient beaucoup beaucoup d'argent. Et c'est la fin en fait, par hasard évidemment, j'imagine que c'était pas forcément une vraie malédiction, une vraie malédiction.
Ouais, elle a marché quand même. Hein.
Ouais, elle a pas mal marché, c'est vrai. Ouais. Et donc, ça a été là. Alors, attends, je vais plus m'en souvenir. Je suis sûr que Jérôme, tu pourras me dire. C'est la fin de une des lignées des rois de France, qui étaient les. C'est pas les Valois. C'est juste avant.
Non, c'est pas la fin des. Alors là, tu me poses une colle.
D'accord.
Non, parce que ce qu'on dit souvent sur les rois maudits, c'est que c'est la fin du Moyen Âge, en fait. Est-ce que c'est la fin de la lignée des Capétiens. Il y a le fameux épisode sur la loi des mâles, parce qu'en France, il y avait loi des mâles, alors qu'il n'y avait pas en Angleterre, donc ça s'est arrêté au dernier mâle.
C'est ça. Et donc c'est suite à cette malédiction que la lignée des Capétiens directs s'est arrêtée, parce qu'en fait, sans spoiler le roman lui-même, c'est Philippe le Bel et ses enfants toute sa lignée qui sont morts assez jeunes et qui ont fini par éteindre complètement la lignée. Et ça a en fait toutes les qualités d'un roman historique, c'est-à-dire que c'est à la fois ancré dans l'histoire, donc c'est quelque chose de vérifié, de réel, et en même temps, il y a toute une sorte d'aspect épique, de personnages incroyables qui sont bien sûr romancés, donc c'est un petit peu arrangé, mais il n'empêche, ce sont des personnages historiques qui ont vraiment existé, et il y a toute une galerie de personnages assez incroyables, des aventures et des mésaventures qui vous tiennent en haleine du début à la fin du truc. Bon, les 4 premiers sont quand même mieux que les 3 suivants, mais il n'empêche, sur toute la durée de cette série, c'est presque le Game of Thrones de l'après-guerre, quoi.
C'est exactement ça. Il y a trahison, complot, jalousie, il y a tout dedans, quoi. De l'amour, de la haine, il y a tout.
Ouais, exactement. D'ailleurs, entre parenthèses, le premier s'appelle Le Roi de Fer. Donc, Trône de Fer, Roi de Fer, tu vois, c'est un peu... Donc il y a le roi de fer, la reine étranglée, les poisons de la couronne, je lis sur Wikipédia, hein, je les connais pas tous, la loi des mâles justement qui est le 4e. À partir des 3, les 3 suivants sont donc, comme je le disais, un petit peu moins bien, mais il n'empêche, c'est vraiment une aventure qui vous fera découvrir l'histoire si vous ne la connaissez pas, et en même temps c'est le parfait roman pour l'été, quoi. Vous allez commencer à le lire et vous n'allez plus le lâcher. C'est un super super roman, autant qu'un super roman historique. Il y a une maîtrise du sujet qui est absolument magistrale, et qui donc ne peut être que recommandée à absolument tout le monde. Pour moi, c'est quelque chose d'immanquable, au même titre que les classiques de la littérature classique justement, voire même un petit peu plus. C'est un roman qui est parfait pour les adultes, parce que c'est quelque chose de très bien écrit, d'excitant, de très rythmé, et pour les enfants en même temps, pour les adolescents, c'est le genre de truc qui vous fait aimer la littérature, je pense. Donc, je ne saurais trop le recommander, Les Rois Maudits en 7 volumes. Je pense que vous êtes d'accord sur mon
analyse. Complètement. Moi, c'est même ce qui m'a fait aimer, au-delà de la littérature, c'est ce qui m'a fait aimer l'histoire, Les Rois Maudits, l'histoire de France. Oui.
Alors moi, tu vois, je ne connaissais pas. Et...
C'est vrai.
Mais non. Mais alors, je crois que c'est très drôle parce que si je me souviens bien, on avait dû en parler. Je crois la première émission. J'ai le planning de la première émission qu'on avait fait ensemble, donc de Positron, il y a un an. Jérôme avait parlé des Vikings et j'avais fait la même réflexion, c'est que moi, j'étais pas trop tout ce qui est histoire, historique. C'est pas trop mon délire. Cela dit, tu me l'as bien vendu et j'ai quand même envie de le lire. Ça me tente bien. Ça me parle bien.
Magnifique. Mais est-ce que t'avais...
Tu sais, William, c'est important. Savoir d'où on vient, c'est savoir où on va.
Mais non, j'étais sûr que quelqu'un Jérôme. Allait le sortir.
Mais c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que je vais me les procurer, je vais les lire.
D'accord. Avec plaisir. Super. Et t'avais regardé Viking finalement?
Non, mais j'ai quand même.
Ouais. Après, je vais être honnête. Viking pour la réalité historique, bon, on va dire que là c'est du grand écart.
Un petit peu moins ça.
Alors que les bouquins des rois maudits, c'est quand même, c'est l'Académie française, c'est un peu plus proche de l'histoire.
Quoi, bien sûr. Ouais. Non, les Vikings c'était trop violent, je crois. C'est pour ça que j'avais pas envie de regarder.
Ah, moi, ça te faisait un petit peu peur.
Ouais, oui. J'ai pas envie d'avoir peur.
Ouais. Moi, j'avoue que j'ai pas regardé Viking non plus. Enfin, j'avais regardé un ou deux épisodes, ça m'avait pas super plu. Par contre, de l'époque, j'avais écouté Santa Olala, et c'est vrai que ce qui était ta recommandation de l'époque, Will, et ça m'avait assez plu quand même.
Donc, c'est gentil. Voilà. Ah, mais on va tous s'auto-congratuler. J'avais beaucoup aimé le comic dont tu nous avais parlé. Putain, c'était génial.
Ah, super. Très bien. C'est vrai? C'était Lock and Key.
Lock and Key, ouais.
Ouais. C'est bien, hein.
Ouais, très sympa.
Ah, d'ailleurs, faut que j'aille acheter les derniers.
Moi,
vient de se
terminer.
Je l'ai pas
lu et j'ai pas regardé le film dont t'avais parlé, Will.
Ah, alors là, Jérôme.
Bien joué, Jérôme. Bon, pour le coup, je jure de détester ce dont tu vas nous parler, toi, Jérôme, pour ton positron.
Tu ne pourras pas, parce que Patrick, je te prends à ton propre jeu. Et en lisant le tableau de la préparation de l'émission, j'ai dit, Patrick va parler des bouquins des rois maudits. Il a pas le droit. C'est mon cheval de bataille. Et moi, je vais parler de la série Les Rois Maudits.
Alors, tu sais quoi, ça me fait penser à quand on était au lycée ou au collège plutôt et qu'on devait lire un bouquin et que certains petits malins, ils regardaient la série plutôt que lire le film plutôt que de lire le bouquin.
Il faut que je vous raconte une petite histoire avant de commencer. Moi, j'ai passé mon enfance donc aux États-Unis et je suis revenu en France et on m'a planté devant la télévision et on m'a dit t'as la télé française. Je venais d'un pays où il y avait 20 chaînes de dessins animés et on me met devant une télé où il y avait 3 chaînes dont une en noir et blanc, et les deux premières choses que j'ai vues, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est Zora Larousse et Thierry Lafonde. Et je me suis dit, putain, je suis tombé où là? Je veux repartir ce pute. Il est hors de question que je reste dans ce pays, j'ai protesté, quoi. C'était juste pas possible. Bon, après, j'ai découvert Goldorak et tout ça, je me suis réconcilié.
Ça allait mieux.
Mais justement, Les Rois Maudits, c'est quelque chose qui m'a vraiment réconcilié avec la France, parce que mon grand-père avait un magnétoscope à l'époque. On n'en avait pas nous, mais lui, il avait un magnétoscope, les premiers magnétoscopes, et il avait les cassettes VHS des Rois Maudits. Attention, je parle de la série télé de 1972, pas la sombre bouse qu'ils nous ont refait en 2006. Les Rois Maudits, celle-là, vous ne la regardez même pas, ce qui a été fait en 2005. C'est une très très mauvaise adaptation, toute naze. Je parle de la vraie, celle de 1972, et je me souviens de mettre religieusement les VHS et de regarder ça en me disant, putain, c'est quand même vachement intéressant l'histoire et ce qui s'est passé ici. Alors, je ne vais pas raconter l'histoire parce que Patrick l'a fait, mais je vais vous dire qu'il faut absolument regarder, même avant de lire les bouquins ou après de lire les bouquins, ça n'a pas d'importance. Parce que là, ça va être l'histoire, mais surtout, vous allez voir ce qu'étaient les acteurs de l'Académie de la Comédie Française à cette époque-là, c'est-à-dire dans les années 70. Il y a Jean Piat, alors cherchez sur Wikipédia, mais Jean Piat qui incarne Robert d'Artois. Alors dans le livre, Robert d'Artois, c'est un personnage hyper flamboyant, et là vous allez voir dans la série, mais tous les méchants hollywoodiens à côté, ou les cyniques hollywoodiens, ils peuvent aller se recoucher, quoi. Jean Piat est juste magnifique en Robert d'Artois. Face à lui, il a Hélène Duc, qui incarne la comtesse d'Artois, cynique, manipulatrice, avec du poison et tout. Mao d'Artois, oui, le nom de la tante. Et après, je vous fais pas tous les acteurs, mais il y avait Louis Seigneur, il y avait Georges Serre, Catherine Rouvel, enfin tous ces noms qui font très anciens, parce que c'était les anciens acteurs. Mais vous allez voir comment, avec un budget, mais je pense que le budget, ça devait être mais ridicule. C'est filmé dans trois pièces dans des vieux châteaux. C'est même pas des pièces, c'est un décor de théâtre avec trois pauvres lumières, des caméras qui arrivent même pas à faire la mise au point, mais des acteurs comme on n'en voit plus. Et on reste bouche bée devant le jeu des acteurs dans un décor hyper minimaliste. Et justement, ce décor théâtral, est-ce que vous avez déjà vu ce théâtre filmé? Les Anglais sont rois là-dedans. C'est le oui. théâtre filmé qui passait à la BBC. Ben, c'est exactement le même genre d'ambiance. C'est-à-dire, on met une table, un faux mur en pierre, une draperie et hop, tu dois comprendre que t'es dans un château. Et ben, justement, ce minimalisme des décors accompagne vachement bien l'histoire parce que du coup, on se sent dans des grands châteaux vides. Les costumes sont très très beaux. Ça devait être des vrais costumes de théâtre. Et je reviens encore dessus, mais le jeu des comédiens, c'est juste incroyable. En plus, comme ils avaient des mauvaises caméras, tous les plans sont des plans resserrés et on a vraiment l'impression d'être dans l'histoire. Enfin, franchement, jetez-y un œil. Tout a été fait en plus en ancien français. Ils n'hésitent pas à parler en... Merde, c'est quoi ce temps en français? C'est pas en imparfait du subjonctif.
C'est glissante là.
Ouais. Et puis je l'ai écrit quelque part, mais je trouve plus la ligne. donc vraiment, il faut le regarder, c'est succulent. C'est 6 épisodes de 102 minutes, donc c'est long. Alors, c'est sûr que c'est pas du tout le rythme des séries actuelles.
Je vais peut-être te casser un petit peu ton cou, Jérôme. Moi, après avoir lu Les Rois Maudits, je suis revenu en fait, je l'ai lu quand j'étais au Japon. Et je suis revenu en France et je me suis dit, ah, alors là, ça devait être un an ou deux ans plus tard après l'avoir lu. Je me suis dit, là, je vais me faire, j'ai découvert qu'il y avait effectivement cette série de théâtre filmé qui était un peu vieille et je me suis dit, je vais me faire Les Rois Maudits en version télévisée et ça va être un délice. J'ai trouvé les cassettes, je me suis installé tranquillement devant ma télé, je me suis dit là ça va être merveilleux, je vais me régaler et en fait je me suis fait chier comme c'est pas permis et j'ai pas tenu plus d'un épisode quoi.
T'as pas de goût. Je m'adresse aux gens qui ont du goût. Je m'adresse aux gens qui la belle langue et le beau théâtre et le grand jeu de théâtre. Franchement, il t'a rien fait, Jean-Pierre, en Robert d'Artois?
Bah écoute, je sais pas. C'était étrange, mais...
Bah moi, c'est un truc culte pour moi. Je peux pas te dire autre chose. Il y a des gens qui n'aimeront pas. Je mets en garde. Hein. C'est très lent, c'est très théâtral, c'est de la vieille comédie. Ça passait sur l'ORTF. Hein.
Vas-y. Une question que j'avais, parce que moi je m'intéresse beaucoup en fait à, peut-être pas à l'histoire, mais à l'histoire de la télévision, ça c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Et je sais pas si je confonds, mais il me semble justement, c'était pas d'ailleurs diffusé et filmé en direct aussi, parce que je sais qu'il y avait des séries qui étaient, comme tu disais, dans des décors très minimalistes, enfin les séries telles qu'on pouvait les entendre encore à l'époque de l'ORTF et encore dans les années 50 et 60, et qui étaient parfois même en direct directement. C'était enregistré
du théâtre filmé. Les souvenirs sont bons parce que je m'étais informé aussi. Je crois qu'effectivement, t'as raison, c'était filmé en direct, mais en même temps, c'est la première mini-série qu'ils ont enregistrée sur Péloche aussi en même temps. D'accord. Pour pouvoir la garder. D'accord. Et ça a été diffusé entre le 21 décembre 1972 et le 24 janvier 1973. Et ça a été un score d'audience comme on n'en avait jamais vu en France à l'époque. C'était la série à suivre. C'était le Game of Thrones français, quoi. Alors, c'est sûr que si vous le regardez en vous disant je vais avoir des effets spéciaux à la Game of Thrones et surtout la nervosité du montage qu'on a dans les séries actuelles, alors là, vous allez vous faire chier, ça c'est sûr. Hein. Faut regarder ça comme une pièce de théâtre, c'est grandiloquent. Ça peut être chiant, mais à la limite, Patrick, je comprends, hein, tu peux te faire chier devant ce genre de truc. Moi, je sais juste que je le regarde quasiment une fois tous les trois ans, et à chaque fois, c'est un vrai délice. Et la sortie de Jacques de Molay qui brûle sur son boucher, je refais la même erreur que toi, sur son bûcher, Guillaume de Nogaret, Pape Clément et Philippe le Bel, je vous appelle 6-7 ans à comparaître devant le tribunal de Dieu. Elle est magnifique cette scène. Et c'est fait avec trois morceaux de tissu rouge pour faire les flammes, quoi. Mais les acteurs sont tellement bons, Enfin voilà, moi je pourrais en parler des heures. J'adore cette mini-série. Pour moi, ça fait partie de mes fondamentaux. Après, je comprends que des gens n'aimeront pas. C'est filmé en plus. Enfin, franchement, l'image, elle a dégusté. Hein. C'est plus du tout dans les standards qualité de maintenant. La prise son aussi. Je pense qu'ils planquaient des gros micros dans les bouquets de fleurs de chaque côté pour arriver à choper les voix. C'est une catastrophe. Mais les acteurs, putain, des acteurs comme ça. C'est là que tu vois, on est toujours en train de dire en France, on sait pas faire, on est nuls et machin. Putain, à cette époque-là, on avait des putains d'acteurs. Je peux te dire que ça tenait tête aux acteurs d'Hollywood.
D'accord. Bon, bah écoute, tiens, si camarade positronneur, vous avez lu et regardé la série, venez nous dire ce que vous en pensez dans les notes de l'émission sur frenchspin.com. Et comme ça, vous pourrez nous dire un petit peu ce que ça vous a fait, les Rois Maudits. Si vous êtes plutôt Jérôme ou plutôt Patrick.
Et surtout, regardez pas celle de 2005. Sinon, je vous maudis jusqu'à la 7e génération.
moi, je retiendrai surtout que tu regardes cette série, du coup, une fois tous les 3 ans, soit à peu près le même rythme de diffusion que Rabbi Jacob à la télévision, quoi.
C'est un peu ça, ouais.
C'est le Rabbi Jacob de Jérôme, en fait.
c'est pas mal.
Ok, bon, Will, à ton tour, lance-toi, envole-toi comme un signe majestueux et fais-nous rêver.
Au moins. Non, mais ça tombe bien, parce que la transition est encore toute, cette émission est toute en transition. Donc, je trouve ça plutôt sympa, puisque tu viens de dire, Jérôme, que, à l'époque, il savait jouer, qu'aujourd'hui, les séries, c'est un peu de la merde, les séries françaises. Eh ben, justement, ce n'est pas le cas, parce que je vais vous parler d'une série, qui a été, une série humoristique, créée en 2007, par des Français. C'est une série télé française, diffusée sur France 2, qui s'appelle Fais pas ci, fais pas ça. Alors, j'imagine que pas mal de gens, peut-être qui nous écoutent, ont déjà vu cette série. C'est l'histoire, je vais vous faire le pitch assez rapidement. Ça raconte les péripéties de deux familles qui sont diamétralement opposées. D'un côté, on a la famille Boulay, qui est une famille recomposée, j'ai pas rien à
nom
et des
nom, ou...
qui porte si on veut, qui porte bien son nom. En tout cas, eux-mêmes ils font des beaucoup de blagues à ce propos. Donc je pense que ça a été bien choisi délibérément. Donc la famille Boulay, qui est une famille recomposée assez moderne avec des parents des parents un peu post-68ard, qui ont une idée assez précise sur l'éducation de leurs enfants, en mode il faut pas les stresser, il faut privilégier la discussion, faut ne pas faire preuve de trop d'autorité. Voilà, vous savez, toujours ce côté très laxiste, on va dire, sur l'éducation. Et puis de l'autre côté, il y a une deuxième famille qui est la famille Lepic, qui est, elle, une famille très traditionnelle, avec la mère au foyer qui éduque les enfants, le papa qui va travailler, et une éducation très stricte, avec un objectif familial qui est clair comme de l'eau de roche, c'est la réussite sociale et professionnelle. Voilà, donc c'est très cadré. Donc, le postulat, il est assez simple, on va suivre ces deux familles. Le fond, on peut dire que c'est assez classique, voilà, c'est deux types de situations qui s'opposent, mais c'est dans la forme où c'est très très original, puisque dès la première saison, et l'idée, ça a été de filmer cette série presque comme un documentaire, comme un reportage. Et en gros, on voit les scènes qui sont jouées, mais alors, c'est ce que tu disais justement, Jérôme, juste avant, là, c'est joué tellement bien joué qu'on a l'impression que c'est vrai. C'est-à-dire, c'est vraiment, les scènes sont extrêmement naturelles. On n'a pas l'impression qu'il y a un jeu d'acteur spécifique. Donc vraiment, on a l'impression de voir vraiment des vraies familles en train de parler entre elles. C'est filmé un peu, je vais pas dire caméra au point, c'est un peu exagéré, mais c'est filmé, on les voit vraiment parler sur des discussions vraiment normales, pas des textes très complexes ou complètement romancés. Et surtout, à chaque fin de scène, normalement, il y a un espèce de comment dire, d'interview des familles respectives. Donc en fait, il y a une scène qui va se passer, et puis on va voir en face caméra, par exemple, le père et la mère d'une des familles, qui va raconter à la caméra ce qui s'est passé, qui va donner son avis sur la scène.
C'est un peu genre télé-réalité, quoi.
Alors c'est pas genre télé-réalité, c'est vraiment plus genre documentaire. C'était parti du
principe. C'est un peu genre The Office.
C'est si on veut. Mais c'est surtout, ça va faire penser à une série, peut-être que vous connaissez aussi, une série américaine qui s'appelle Modern Family.
Oui. Ah oui, bien sûr. Oui.
Et voilà. Et Modern Family, c'est exactement fais pas ci, fais pas ça. Mais
c'est vrai.
Pourquoi on peut en être fier, c'est que Modern Family est arrivé après fais pas ci, fais pas ça, et c'est l'adaptation américaine de fais pas ci, fais pas ça qui est une série.
Non, mais pas officiellement.
Alors, c'était à l'origine l'adaptation officielle. C'est-à-dire, en fait, France 2 a vendu, enfin, la société de production qui fait Fais pas ci, fais pas ça, a revendu les droits de Fais pas ci, fais pas ça en 2007 ou 2008 à ABC, A priori, il y aurait eu des remous dans les négociations. Ça ne s'est pas passé exactement comme il le souhaitait, parce que d'un côté, les auteurs français voulaient imposer certains choix, les Américains, eux, voulaient en faire d'autres. Toujours est-il que l'adaptation prévue n'a pas eu lieu, mais un an après, donc en 2009, est sorti Modern Family, qui reprend point par point exactement la même façon de monter, le même type de situation, alors avec trois familles au lieu de deux, et des familles bon, adaptées au paysage américain. Mais si on compare des épisodes vraiment l'un à côté de l'autre, c'est exactement la même logique et le même fonctionnement. Et donc c'est bien, enfin ils s'en cachent pas, hein, ça a bien été inspiré de Fais pas ci, fais pas ça. Donc on peut être fier quand même.
Ah c'est intéressant.
Ouais. Une série française.
Ouais, on n'a pas dû toucher un sou sur le truc parce qu'ils sont arrangés pour que les. Bah voilà. Donc
exactement
on peut être fier. On peut être fier.
En fait l'histoire c'est ça, c'est qu'on s'est fait entuber. Après, c'est
ouais. Mais on peut être fier. On peut être fier. Ça fait un peu mal au derche, mais on peut être fier.
Alors, rapidement, dans cette série, il y a quand même des acteurs qui sont connus, d'ailleurs, qui sont plus connus maintenant qu'au début, parce que cette série, elle cartonne quand même un chiffre. Cette saison, alors on en est à la sixième saison, la saison dernière qui a eu lieu en octobre dernier, donc l'automne dernier, a quand même rassemblé en moyenne 5 millions de téléspectateurs par épisode, ce qui est pas rien. En France, c'est vraiment pas mal pour une série originale. Il y a des acteurs connus, bon, il y a Bruno Salomon, que vous connaissiez peut-être dans Coucou, c'est nous, si je me trompe pas, qui avait fait plein d'autres films et séries télé à l'époque. Il y a Guillaume de Tonquédec, qui lui, du coup, a été révélé par cette série, qui est un acteur qui a fait beaucoup de choses avant, mais qui a été révélé par cette série, qu'on a pu voir dans le film Le Prénom ou Barbecue plus récemment. Valérie Bonneton, aussi, qu'on a pu trouver dans le film Le Volcan, enfin, et il y a fait You're Cool, je sais plus comment on le dit exactement, avec Danny Boone récemment, ou Les Petits Mouchoirs aussi, elle était dedans. Donc, des acteurs qui sont vraiment incroyables, des scènes qui sont vraiment, on se plie pas de rire, en fait. On va être tout à fait honnête. C'est comme Modern Family, si vous avez déjà regardé. Il y a des scènes où on rigole bien, mais c'est pas la grosse marade du début à la fin. C'est pas une sitcom. C'est pas très très drôle non plus.
Non, c'est quand même,
C'est drôle, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, tu te fends pas la poire comme si tu regardais un épisode.
Non, ouais,
un épisode de Friends voilà. Ou, tu vois, c'est plus des moments de situation et tu rigoles bien, tu souris, mais t'es pas plié tout le long de l'épisode. En général, quoi. Donc,
Pas, moi, je trouve ça très drôle, quand même. Hein.
Oui, enfin, Modern Family. Non, mais c'est pas écrit pour que... Enfin, tu sais qu'un truc genre Friends ou les vrais sitcoms, c'est calibré pour qu'il y ait un rire toutes les temps, minutes, voilà. Machin, ou un Big Bang Theory, tu vois. C'est, voilà, on va de la blague à la blague. Là, c'est plus Modern Family. Moi, je me marre bien.
Oui.
Mais il y a des moments aussi plus aigre-doux, on va
dire. C'est plus subtil. Voilà, c'est ça. C'est plus, je pense, c'est plus subtil, tu vois. C'est plus... Voilà, mais peu importe, mais vraiment série française très bien fichue et je vous la recommande vraiment. Il faut se mettre un peu dedans. Alors même pour Modern Family, je pense que c'est pareil. C'est vrai que la façon dont c'est filmé, les situations, c'est vrai que ça peut rebuter les gens qui apprécient peut-être regarder Joséphine Ange Gardien et le côté plus traditionnel des séries françaises, mais si on s'y met un petit peu, les saisons s'améliorent vraiment d'année en année, les situations sont toujours réussies, les scénarios se suivent, enfin c'est vraiment très sympa. Les saisons font 8 épisodes de, si je ne me trompe pas, 1h30 quand même chaque épisode, c'est français, hein. Donc c'est quasiment des petits films, mais vraiment je recommande absolument à tout le monde. Bon, il y a déjà 5 millions de personnes qui regardent, donc.
Mais moi j'ai jamais vu, en fait. Faut dire que
moi
je suis pas
plus,
très télé,
pas
très télé française.
C'est pour ça que je voulais en parler, parce que je sais que moi-même je suis le premier à être dépité quand d'un côté je vois des Anglais qui arrivent à nous faire des séries comme Sherlock, et en France où on a Joséphine Ange Gardien ou Camping Paradis. Mais toujours est-il que de temps en temps, bah voilà, il y a des pépites qui sortent et qu'il y a quand même de la création et que en plus les Américains nous ont repris cette idée, donc on peut en être plutôt fier. Et pour le coup, c'est vraiment bien fichu, c'est une vraie création française et qui n'avait jamais été vue ailleurs, donc on peut.
Encore une fois, j'ai pas vu la série, mais c'est la même chose dans les web-séries et tout ça. On dit souvent en France, on n'a pas les moyens pour faire des séries, les Américains.
Exactement.
Non, ça repose sur les acteurs. Une web-série peut être excellente si les acteurs sont bons, même si c'est fait avec trois bouts de ficelle. C'est vraiment une question d'acteurs, et les acteurs français prennent pas la télé au sérieux. C'est à partir du moment où ils la prennent au sérieux et qu'ils jouent bien à la télé qu'on commencera à avoir des bonnes séries, quoi, comme les Anglais.
Ouais, à vrai dire, moi je pense que, bon, c'est un autre sujet, mais les acteurs français, d'une manière générale, généralement, ils sont pas très bons, parce qu'il y a un tel héritage du théâtre et du surjeu du théâtre que même au cinéma, généralement, ils sont pas naturels. Et aujourd'hui, par rapport à il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, le principe du jeu d'acteur au cinéma, c'est d'être aussi naturel que possible, d'essayer de retranscrire ce qui se passerait dans la réalité. Ouais, et la manière dont c'est écrit, d'une part, c'est beaucoup trop écrit, le cinéma français. C'est-à-dire c'est écrit comme plus comme un roman, c'est des textes qui sont écrits à l'écrit et pas en parlé. Et de l'autre côté, les acteurs qui surjouent un peu parce qu'il y a la tradition du théâtre, ça fait souvent un cocktail qui est pas magnifique, mais bon, peut-être que effectivement, enfin, ça arrive qu'il y ait des choses bien aussi, donc.
Mais tu as tout à fait raison, c'est vraiment ça aussi les textes, parce que c'est vraiment ce que tu dis, c'est, je pense que c'est le gros problème, c'est quand tu regardes des textes de séries télé françaises, ben, je vais pas me faire des amis, mais bon, Plus belle la vie, c'est pas un bon exemple, mais tout de même.
Attention, Corben va s'énerver, là.
Voilà, oui, mais Plus belle la vie et compagnie, tu vois, les textes, c'est toujours écrit, ça n'a aucun sens une fois que c'est parlé, quoi. C'est-à-dire quand c'est dit, sens que c'est des phrases qui ne pourraient jamais sortir de la bouche d'un être humain, d'un français. Là, dans cette série, justement, c'est ce qui avait, moi, ce qui m'avait, j'avais vu dès les premiers épisodes, c'est ce qui m'avait sur le coup étonné, qui était nouveau en tout cas en France. C'était vraiment ce ton vraiment naturel, et t'as l'impression que les acteurs, t'as l'impression presque que ce n'est, pour le coup, que ce n'est pas écrit. C'est ça qui est, c'est là où ça devient fort, quoi. C'est-à-dire, une situation se passe, et t'as l'impression qu'on leur a donné un thème et que les acteurs ont improvisé et qu'au final, ça a donné quelque chose de vraiment vrai. Donc voilà, vraiment une très très bonne série, très sympa. Je recommande à tout le monde.
Absolument. D'accord, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Will. Très intéressant, en effet. On arrive à la fin de cet épisode, donc je vais vous rappeler ce dont nous avons parlé aujourd'hui. D'une part, le roman Les Rois Maudits de Maurice Druon. D'autre part, une suggestion extrêmement originale de Jérôme Kainborg, la série télé de 1972, Les Rois Maudits.
Par Claude Barma, j'ai oublié de le citer.
Voilà. Oui, et entre parenthèses, pour ceux qui se demandent depuis tout à l'heure, j'ai vérifié, et en fait, la série télé ne couvre que les 6 premiers volumes, et c'est pour ça qu'elle est sortie en 72, avant la sortie du 7e volume, donc voilà. Et Fais pas ci, fais pas ça, la série télé qui a inspiré Modern Family, conseillée par Will.
Par William, ouais. c'est William, mon prénom.
Ah, non, mais William. Je sais pas, je dis Will en même temps. Tu es connu aussi sous le
Non, mais William, ça me va très bien. Non, mais je vais aussi préciser les noms des deux créateurs aussi, parce que comme Jérôme, il l'a fait, je vois pas pourquoi je le ferais pas pour cette série qui est très bien, qui sont Anne Jaffery et Thierry Bizot, et je les félicite, parce que vraiment, chapeau à eux, c'est une super série.
Super. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à vous deux. Avant de se séparer, j'aimerais quand même que vous disiez à nos très chers auditeurs où ils peuvent vous retrouver sur Internet. Même si on l'a déjà dit en début d'émission, c'est pas grave. On va le répéter. Et d'ailleurs, vous allez le répéter maintenant.
À toi, Will. Je t'ai coupé la parole tout à l'heure et t'as rien pu dire, du coup.
Non, mais c'est pas grave. Ça me dérange pas. Moi, je raconterai mon voyage que j'ai fait en Espagne dans le prochain épisode. Chacun son tour. Non, moi, vous pouvez me retrouver toujours sur willandco.fr. On continue l'émission, malgré qu'on a l'impression qu'on la continue pas. On la continue quand même. Là, on est en train de travailler très fort déjà pour la rentrée prochaine sur cette émission. On continue toujours. Donc, willandco.fr. Il y a normalement une émission toutes les semaines qui sort avec une super équipe et on se marre beaucoup. Donc, on vous invite à nous rejoindre, à écouter et regarder cette émission sur le site internet et sur YouTube.
Magnifique. Jérôme, c'est à ton tour.
Eh bien, moi, vous pouvez me retrouver sur Nowtech. Me reprouter, si vous voulez aussi. Me retweeter, me retourner, tout ce que vous voulez. Sur Nowtech. Bref. C'est sur Nowtech, je vais y arriver. sur Nowtech.tv.
Voilà. Magnifique. Et ton Twitter, c'est quoi?
Jérôme, comment je m'appelle sur Twitter? Jérôme Kainborg, c'est simple.
Ah, d'accord. J'ai cru que tu sais écrire Kainborg, c'est simple.
Oui, c'est pour ça que je donne pas le mien, parce que moi, j'ai abandonné l'idée, quoi. Bistro, personne n'y arrivera jamais, donc bon. Pas grave.
D'accord. Bon, bah écoutez, tant pis. Alors, ce que vous pouvez faire, du coup, si vous voulez découvrir les comptes Twitter de nos chers invités, c'est que vous pouvez aller sur frenchspin.com pour aller sur les notes de l'émission, dans lesquelles les noms des invités et leur Twitter et tout ce qu'il y a d'intéressant sur eux sont notés. Vous y retrouverez aussi les noms de nos positrons d'aujourd'hui et du passé, et voire même du futur, une fois que nous serons dans le futur. Et en attendant, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Je suis NotPatrick sur Twitter, et vous pouvez donc me suivre là-bas et découvrir toutes les choses incroyables que je tweete à longueur de journée. D'ici à ce que on se retrouve, eh bien, il y aura 15 jours qui vont se passer, mais n'ayez crainte, nous serons de retour début août, autour du 7, pour un nouvel épisode. Et entre-temps, vous avez bien sûr l'émission Upload, qui vous donne des conseils d'app que je fais avec Jérôme Kainborg, qui est en alternance avec Positron. Donc, si vous allez sur frenchspin.com, vous pouvez aussi vous abonner en podcast à cette émission ou l'écouter sur le site, d'ailleurs. Et le Rendez-vous Tech, qui est l'autre émission qui est sur frenchspin.com, qui vous résume l'actu tech de manière simplifiée et condensée. Donc si vous êtes intéressé par ce sujet, vous pouvez y aller aussi. Je vous en garantis la qualité. On vous fait de grosses bises et on vous dit à dans 15 jours. Ciao, ciao.
Salut. Salut tout le monde. Ciao.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.